Vous écoutez RTL.
RTL Matin,
Yves Calvi.
7h44, Elisabeth Martichoux, vous recevez ce matin Sébastien Lecornu, secrétaire d'État auprès du ministre de la Transition écologique et solidaire. Et
merci d'être avec nous ce matin, Sébastien Lecornu. Bonjour à vous.
Bonjour, Elisabeth Martichoux.
Laurent Wauquiez est désormais à la tête de votre ancien parti, Les Républicains, élu avec presque 75% des voix. Il a réussi son pari, il fait un tabac auprès des militants.
Vous trouvez ? Moi, je trouve que la poutre travaille encore aux Républicains.
Ouais, presque ça fait 100 000 votants. Alors
ça
qu'on
fait 31% des inscrits. Je le félicite de manière républicaine, puisqu'il est désormais effectivement le patron d'un parti d'opposition, et je pense qu'il faut savoir être élégant avec cela. Après, moi qui connais bien cette famille politique, j'y étais adhérent pendant pratiquement plus de 10 ans, avant qu'ils ne me mettent à la porte il y a seulement quelques semaines. Je peux vous dire que...
Pour avoir rejoint le gouvernement, et puis maintenant vous
pour avoir choisi effectivement mon pays plutôt que mon parti, pour avoir été en désaccord profond entre les deux tours, avec l'incapacité des Républicains à choisir entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron, et puis surtout en étant en rupture avec ce postulat un peu cynique de base qui consiste à dire on veut l'échec d'Emmanuel Macron, on veut l'échec de son quinquennat pour rafler la mise dans 5 ans, là où moi je considère que le pays ne peut pas supporter un tel calcul.
Vous
et
le
ce qui est intéressant dans les résultats d'hier, si je puis me permettre, c'est de voir à quel point il faut regarder tous ces et ceux qui ne se sont pas exprimés, qui sont portant un jour de cotisation aux Républicains, et qui n'ont pas fait le choix de Laurent Wauquiez, ou qui ont fait le choix parfois de ne pas voter. Et ça montre bien qu'à droite, la poutre, comme dit le Premier ministre, la poutre continue de travailler, et que la recomposition politique, elle n'est pas terminée de
Alors,
ce point de vue.
Alors, c'est une étape, vous le connaissez Laurent Wauquiez, vous avez fait campagne avec lui en d'autres temps, et s'il était capable de renouer avec l'électorat populaire, et s'il était en mesure de rassembler ?
Ben, c'est son affaire.
Mais
Nicolas Sarkozy disait,
on
reconnaît un chef à sa capacité de rassembler.
Ouais.
Aujourd'hui, celui qui rassemble, c'est Emmanuel Macron, c'est pas Laurent Wauquiez. Donc ça, c'est son affaire. La réalité, c'est que vous avez une partie de la droite...
Mais est-ce que vous le créditez de la possibilité pour lui de reconstruire une droite qui sera un adversaire coriace à Emmanuel Macron ?
La réalité, c'est que vous avez une partie de la droite qui, au-delà des questions de valeur, on l'a vu avec la déclaration de Mme Calmels hier soir, sur les alliances potentielles
c'est
avec le Front National.
Quelle déclaration ?
Où elle a dit à M. Philippot sur le plateau de BFM TV, je crois, que pour l'instant, il n'y avait pas d'alliance
pour
possible.
Pour le moment. Pour le moment, nous
d'alliance
refusons
possible
une
avec
alliance.
Le Front National.
C'est le pour le moment, évidemment.
Ça, c'est le premier clivage important au sein de la droite. Le deuxième clivage important au sein de la droite, on le voit bien. S'il y a celles et ceux qui veulent une revanche, qui crient même vengeance, et qui veulent que la droite prenne sa revanche sur 2012 et sur 2017, Laurent Wauquiez est un peu ce visage-là. Et puis vous avez aussi toute une partie de la droite, y compris chez les adhérents des Républicains, qui veulent laisser sa chance au quinquennat, qui veulent laisser sa chance, pardonnez-moi l'expression, au produit Emmanuel Macron, et qui ne jugent que les actes et qui ne jugent que les politiques publiques que nous menons.
Alors justement, vous dites quoi, par exemple, à Maëlle de Quélan ou à ceux qui contestent le positionnement de Laurent Wauquiez aujourd'hui ? Rejoignez-nous.
Alors, je ne suis pas là pour leur
vous
vendre
pensez,
une carte à la République en marche. En tout cas,
vous pensez qu'il y aura des transferts ?
Au-delà des positionnements politiciens, moi je souhaite qu'ils puissent soutenir davantage l'action du gouvernement. Ce n'est pas un chèque en blanc. Ce n'est pas à tout prix devenir militant de la République en marche.
On ne peut pas
à la fois
soutenir Laurent Wauquiez chez les Républicains et puis voter.
Non, mais on
les
peut être aux Républicains.
Par exemple, du gouvernement.
On peut
et
être aux Républicains. Et d'ailleurs, je demande à Laurent Wauquiez de le faire. On peut être aux Républicains et de soutenir certains bons projets de loi pour le pays lorsqu'en plus, ils étaient attendus depuis longtemps. Pas toujours. En tout cas, on ne l'a pas suffisamment entendu dire. Et d'ailleurs, je suis bien incapable de vous citer un exemple.
De Laurent Wauquiez qui
soutiendrait.
Qui, en tout cas, il n'a pas voté contre tous les textes.
Ah, bah oui, déjà, on n'est plus tout à fait dans quelque chose de constructif et de positif.
C'est ça aussi qui fait la ligne de démarcation.
Quand il y a une urgence pour le pays, il faut savoir se retrousser les manches et savoir préférer son pays à son parti. C'est ça le gaullisme. On ne peut pas invoquer le général de Gaulle dans les meetings et ne pas en faire preuve de ses qualités essentielles lors de son action politique.
Je vous parlais des transferts éventuels vers En Marche, ou en tout cas des départs des Républicains. Thierry Soler a cité Alain Juppé, ça vous paraît vraisemblable ?
C'est à lui de le décider. Après, moi, je l'ai dit
souvent. Est-ce que ça vous paraît vraisemblable ?
Ce qui me paraît très invraisemblable à un moment donné, c'est qu'un certain nombre de grands visages, de grandes paroles de la droite et des Républicains se taisent trop longtemps face à une dérive auquel nous assistons des Républicains. Ça oui. C'est-à-dire que s'il y a autant de flou sur la question avec le Front National à l'avenir, s'il y a autant de volonté de destruction du quinquennat d'Emmanuel Macron et ne pas aider la transformation du pays, un certain nombre de grandes voix, y compris des voix qui me sont proches d'un point de vue amical, ma relation d'amitié avec Xavier Bertrand, elle est connue, avec Valérie Pécresse, avec Alain Juppé, il y en a aussi beaucoup d'autres dans les élus locaux. Oui, ça sera compliqué de se taire pour ces amis-là, pendant trop longtemps.
Le pour le moment de Virginie Calmel, c'est une gaffe, c'est l'inconscient qui parle. pour le moment, pas d'alliance avec Marine Le Pen.
Je pense qu'il y a une partie des Républicains, je ne sais pas s'ils sont majoritaires, je ne l'espère pas, qui clairement imaginent des alliances électorales à terme avec le Front National. Le fait de ne pas savoir choisir entre les deux tours de la présidentielle, en ne sachant pas dire « je vote Emmanuel Macron contre Marine Le Pen », c'est déjà le premier des rendez-vous, malheureusement, avec cela.
C'est le péché originel.
Ça, c'est la rupture avec l'ère Chirac et l'ère Sarkozy, en plus.
Wauquiez, ce n'est pas l'héritier de Chirac et Sarkozy.
Ah non.
Décision très attendue qui concerne votre ministère, Sébastien Lecornu, cette semaine, Notre-Dame-des-Landes, en tout cas cette semaine. Le rapport est rendu cette semaine, la décision sera prise dans la foulée. Est-ce qu'il faut construire ou non le nouvel aéroport à Nantes ?
Ben, c'est l'objet de la mission. Ouais. 4 mois pour avoir une mission pour éclairer le gouvernement dans la décision qu'il devra prendre. Effectivement, le rapport va être rendu cette semaine.
Le rapport va rendre un avis ou va présenter des hypothèses ?
Va aller effectivement assez loin dans la manière de nourrir la décision qui pourra être prise.
Et voilà. Vous savez dans quel sens ?
Absolument pas. D'ailleurs, moi, je fais partie de ceux qui ont besoin de ce rapport pour être éclairés en la matière.
Mais ce ne serait pas contradictoire de vouloir prendre le leadership de la lutte contre le réchauffement climatique ? C'est aussi l'objet du sommet aujourd'hui et demain à Paris. Et donner le feu vert à la construction d'un nouvel aéroport.
Non,
sur le papier, est-ce que ce ne serait pas contradictoire ?
Non.
Remonter
les grands projets d'infrastructure contre les questions climatiques, ça va un peu rapidement, à mon avis. Notre-Dame-des-Landes, c'est un projet qui existe depuis la fin des années 60. Je crois même que les opposants ont commencé à s'organiser en 72. Je crois même que les premiers documents d'urbanisme qui fêchent l'aéroport, c'est 1974. Le président de la République, il veut traiter ce problème rapidement et prendre une décision, quelle qu'elle soit, il veut la prendre rapidement avec son gouvernement.
La
vraie rupture.
À la fin de la semaine ?
Le rapport sera présenté cette
semaine.
Il faut qu'il soit ensuite étudié et présenté. Il ne s'agirait pas que de mettre ce rapport trop vite de côté. Et très très vite, une décision va intervenir. Rien que ça, déjà, c'est une véritable rupture. Et je pense que celles et ceux qui nous écoutent en conviendront. Ça fait 30 ans que ça dure. Ça fait 30 ans qu'on ne décide pas. Je vois même Jean-Marc Ayrault hier qui reprend la parole sur le sujet dans
Passer
le JDD.
Passer outre le référendum qui a donc dit oui à l'aéroport serait un déni de démocratie.
Ça me fait toujours drôle de voir un ancien maire de Nantes, ancien élu de Loire-Atlantique, ancien Premier ministre, qui n'a pas fait avancer ce dossier, venir donner des ultimatums au gouvernement actuel.
La réalité,
oui, mais Emmanuel Macron, ça fait seulement 6 mois qu'il est là, on ne peut pas non plus lui retirer cela.
Vous le voyez tous les jours ou presque, quelle que soit la décision, Nicolas Hulot restera au gouvernement ?
Je crois qu'il s'est exprimé encore ce matin dans le journal 20 minutes. Il ne fera pas de chantage à la démission. Il a dit clairement, ce n'est pas sa conception des choses.
Pour vous, il restera au gouvernement, quelle que soit la décision.
Nous verrons la décision.
Votre souhait.
Je vais vous dire une chose. Si Nicolas Hulot devait faire ce chantage à la démission, ça serait une manière de peser justement sur la mission et on lui reprocherait. Il ne fait pas de chantage à la démission.
Il ne fait pas de chantage, mais après, est-ce qu'il voudrait mieux qu'il reste ? Est-ce que votre souhait, c'est qu'il reste, quoi qu'il en soit ?
Moi, je fais partie de ceux qui ont appris à travailler avec lui depuis plus de 6 mois et qui souhaitent qu'il reste au gouvernement, bien évidemment, pour des raisons de travail, mais également désormais pour des raisons d'amitié.
Sommet climat, donc, justement, dans la continuité de la COP21 à Paris, avec l'Élysée, vous êtes aux côtés de Nicolas Hulot pour l'organiser. Est-ce que des décisions sortiront de ce grand raout international ou est-ce que c'est juste pour l'image, celle d'Emmanuel
c'est
Macron,
«
Make our planet great again », comme disait l'autre.
Vous le dites très bien. Ouais. C'est avant tout un sommet d'action, ce n'est pas un sommet pupitre. Je pense qu'il y a 3 objectifs assez concrets sur le sommet de demain, pour en dire un mot rapidement. Le premier des objectifs, c'est bien sûr d'entretenir la même dynamique 2 ans après l'accord de Paris, et donc de toujours créer des coalitions toujours plus grandes, notamment sur le carbone, sur le prix du carbone, sur la neutralité carbone. 5 pays aujourd'hui, nous avons bons espoirs que demain, d'autres pays puissent s'engager sur cette neutralité carbone, sur la fin des véhicules thermiques, sur la production d'électricité à base de charbon, où vous l'avez vu, l'Angleterre et le Canada ont pris un leadership important sur le sujet. Ça, c'est le premier objectif, c'est de garder le mouvement. Mmh. Et c'est pas neutre, parce qu'il faut garder le mouvement avec en plus les déclarations du président américain, et donc il faut mettre à bord les grandes entreprises américaines, les grandes ONG américaines, les grandes villes américaines, bref, garder le lien avec les Américains. Le deuxième objectif, c'est bien sûr être démonstrateur de ce qui se passe réellement sur le terrain, les bonnes initiatives, les bonnes actions en matière environnementale, que nous pouvons démultiplier ensuite de par le monde. Je pense que les énergies renouvelables sont un des meilleurs exemples que nous puissions faire. Et puis 3, on va pas se mentir, c'est bien sûr la question financière. Comment au-delà même des finances publiques, des fameux fonds verts et de tout ce qui a pu être mis en place, notamment depuis Copenhague, comment on fait monter la finance verte à bord ? Comment on explique à ceux qui financent l'économie ?
La finance privée ou la finance ? Parce que c'est le financement public qui est très très supérieur à tout financement privé aujourd'hui.
Et l'objectif, c'est de rééquilibrer tout ça pour avoir des effets de levier qui soient suffisamment significatifs. Ouais. Comment convaincre le monde de la finance qu'elle peut se détourner du financement de tout ce qui est énergie fossile ou énergie à base de carbone pour le mettre sur les énergies renouvelables. C'est par exemple ce que j'ai fait il y a 3 ou 4 jours avec le fonds Eiffel, 200 millions d'euros, pardonnez-moi, pour financer les énergies renouvelables en France.
Est-ce qu'il faut une taxe financière européenne ? Hier, on a entendu 4 grandes voix françaises effectivement dire oui, il faut étendre cette taxe financière à l'Europe.
4 collègues du gouvernement, voilà. Pour que ça ait un sens, effectivement, il faut qu'il y ait cette taxe à l'échelle européenne qui permettra de financer un certain nombre d'actions pour le climat.
Juste une action, un projet qui pourrait sortir de ce... De ce climat, de ce sommet, pardon.
De ce sommet.
C'est compliqué.
La trajectoire sur la neutralité carbone. 5 pays aujourd'hui, Suède, Norvège, Costa Rica, France, Nouvelle-Zélande, de mémoire, être beaucoup plus que 5 à l'issue du sommet, ça c'est un vœu. Et j'insiste sur le financement des énergies renouvelables, sur lequel on a un modèle de plus en plus compétitif. Un exemple, en mer du Nord, c'est la première fois qu'on a de l'éolien offshore, sans subvention publique, ça devient compétitif, l'offre commence à rencontrer la demande, c'est là où nous pouvons travailler sur le sujet.
Voilà, et c'est monsieur Éolien qui nous le dit au gouvernement. Merci Sébastien Lecornu d'avoir été avec nous ce matin sur RTL.
Merci Elisabeth Martichou.
Concernant Laurent Wauquiez, on ne peut pas évoquer le général de Gaulle dans ses meetings et refuser le rassemblement. Sur Notre-Dame-des-Landes, rapport rendu cette semaine, il n'y aura pas de chantage de Nicolas Hulot, où vient de nous rappeler Sébastien Lecornu, qui souhaite évidemment l'entrée du financement privé dans l'économie verte de façon de plus en plus importante aujourd'hui dans notre pays et en Europe. Merci à tous les deux, l'entretien est à retrouver sur le site rtl.fr.